Bonjour chers auditeurs, c'est Si vous voulez me prêter vos oreilles, une émission animée par Jasmine et à la technique Stéphane. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mémoires d'un papou en Occident, au pays des hommes blancs, ça s'appelle. C'est vous les blancs qui avez inventé les livres. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter sur votre drôle de tribu. Je m'appelle Mundia Kepanga et je suis un papou de la tribu des Uli en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu la chance de voyager en Europe et d'observer vos coutumes étranges. Les femmes gratuites, les médicaments contre les enfants, la soupe de fromage. J'ai beaucoup de respect pour vos traditions, mais honnêtement, les hommes blancs sont vraiment des sauvages. Agriculteur originaire des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundia Kepanga n'est jamais allé à l'école, comme je vous l'ai déjà dit, et n'était pas destiné à écrire un livre. Observateur perspicace, il pose pourtant un regard plein de fraîcheur sur notre société moderne. Invité à plusieurs reprises par son ami français Marc Dozier à parcourir l'Europe, il a fini par devenir le héros du documentaire « L'exploration inversée » qui retrace ses péripéties à travers l'Hexagone. Rédigé avec la complicité de Marc Dozier, le récit de ses aventures au pays des hommes blancs dévoile ainsi sa conception pleine d'humour et de philosophie du monde occidental. Mes voyages en Europe. La première fois que Marc nous a accueillis en France en septembre 2003, nous étions vraiment inquiets. Heureusement que j'étais avec mon cousin Paul Obi. Nous demandions à quoi pouvait bien ressembler son pays. Était-ce comme chez nous? Y avait-il des forêts? Des rivières? Faisait-il chaud ou froid? Nous n'avions aucune idée. À cette époque-là, nous n'avions jamais vu de carte du monde et nous ne savions même pas où se trouvait l'Europe. Au cours de ce premier voyage, nous avons sillonné la France durant 4 mois. Nous avons gravi des montagnes, visité des grottes et des écoles, conduit des tracteurs, chassé des sangliers. Puis, nous sommes rentrés chez nous. En 2006, nous avons eu l'occasion de revenir en Europe pour participer au documentaire « L'exploration inversée » qui raconte nos aventures à travers la France. Nous avons à nouveau parcouru l'Hexagone durant 4 mois, ramassé des moules, goûté du vin, dormi dans des châteaux et même été conviés à visiter l'Assemblée nationale. Avec mon cousin Paul Obi, nous n'avions jamais réalisé de film parce que comme les livres, ce sont les Blancs qui les ont inventés. Mes ancêtres ne savaient pas utiliser de caméra, mais nous n'avons pas eu peur de tenter de cette nouvelle expérience. Je suis très content du résultat et je crois que notre film est réussi, car tout le monde nous a félicités. Afin de le présenter, j'ai été invitée à donner de nombreuses conférences. Et c'est pour cela que je suis revenue en Europe pour 6 mois en 2009, puis 3 mois en 2011. Parfois, au cours de ces rencontres, certains m'ont demandé, et c'était bien moi qui m'exprimais dans notre film, si mes réponses n'avaient pas été préparées et si Marc m'avait soufflé ce que j'avais à dire. À chaque fois, ces questions m'ont exaspérée et j'ai répondu « Regardez-moi, vous trouvez que je ressemble à un cochon ou à un singe? Vous pensez que je suis qu'une sculpture? Mais regardez-moi bien, je suis un homme, j'ai des bras, des jambes, des yeux, un visage et une bouche. Je n'ai besoin de personne pour parler. Vous imaginez que les mots qui sortent de ma bouche ont été enregistrés sur l'un de vos magnétophones? Vous pensez que je ne suis qu'une marionnette ou une poupée avec des piles qui dit « Maman » comme celles que l'on peut voir dans vos magasins? Vous croyez que je ne suis pas capable d'avoir ma propre opinion? Non, je suis un être humain et je n'ai besoin de personne pour m'exprimer et dire ce que je veux. J'ai l'impression que les Blancs croient qu'ils sont les seuls à penser et avoir un cerveau. Les âges de la vie. Les enfants. Les enfants des hommes blancs sont très intelligents. À peine 4 mois après leur naissance, ils vont déjà à l'école pour apprendre à lire et à écrire, car il faut qu'ils deviennent des adultes le plus rapidement possible. Alors qu'ils ne dépassent pas ans ou 50 cm de haut, ils peuvent rester assis à un bureau sans bouger pendant des heures. À 3 ou 4 ans, ils ressemblent déjà à des chefs. Chez nous, les enfants ramassent du bois pour faire le feu, vont chercher de l'eau à la rivière, creusent des tranchées dans les jardins ou s'occupent des cochons pour aider leurs parents. En Europe, ils apprennent à lire, à écrire, à compter et même à parler plusieurs langues. Après, tout est facile. À 12 ou 13 ans, ils savent se servir des ordinateurs, envoyer des messages par Internet et peuvent même conduire des voitures. Je me demande s'ils ne vont pas exploser à force d'apprendre. Le savoir va finir par les tuer. Les hommes. Les hommes blancs ressemblent beaucoup à ceux de mon village, sauf qu'ils sont blancs et que leurs coutumes sont très différentes des nôtres. Chez eux, tout est réglé, rangé, aligné, classé. C'est une façon de penser particulière, mais elle ne me déplaît pas. Les blancs aiment réfléchir et étudier. Ils font des listes, calculent et mesurent tout. Ils connaissent le nombre d'habitants de tous les pays du monde, la distance entre toutes les villes, le poids de toutes les montagnes. Ils étudient les animaux, les pierres, les rivières, les étoiles, les arbres et tout ce qui existe. Ils font toutes sortes de calculs scientifiques pour deviner le futur, notent le temps qu'il a fait et prédisent le temps qu'il fera. Je crois que les Blancs aiment savoir et que rien ne les agace, plus de ne pas tout comprendre. Par contre, je trouve étonnant qu'ils ne sachent pas lire sur les visages. Nous observons ceux qui nous entourent et sommes capables de discerner si ce que nous faisons les rend contents, jaloux ou tristes. Nous pouvons deviner leurs pensées en étudiant le plissement de leurs yeux, le changement de couleur de leur nez ou de leurs joues. On dirait que les Blancs ne savent pas faire cela. Ils pensent et agissent, mais ne se soucient jamais de ce que pensent les autres et n'observent pas leurs réactions. En général, pourtant, les Blancs sont vraiment gentils, sérieux et honnêtes. Peut-être existent-ils des pickpockets et des malfaiteurs, mais au cours de mes voyages en Europe, je n'en ai pas rencontré. Je crois que les Occidentaux ne mentent jamais. Si un homme blanc dit « Je vais te donner 100 quinas », l'équivalent de 35 euros, c'est comme tu les avais déjà dans la poche, car il ne reviendra pas sur sa parole. Les Blancs sont particulièrement généreux avec leurs femmes et ne les quittent jamais, comme s'ils avaient peur qu'on leur vole. En Europe, les hommes vivent dans la même maison que leurs femmes et ils dorment ensemble avec leurs enfants. Ils n'ont pas de maison séparée comme chez nous. Dans mon village, les hommes mariés ou célibataires, jeunes, adultes ou anciens, vivent tous ensemble dans une case interdite aux femmes qui s'appelle Haussmann. Généralement, nos compagnes habitent dans une autre hutte indépendante avec les enfants en bas âge. Il y a encore peu de temps, nous ne dormions jamais avec elles. Mais aujourd'hui, avec l'influence des missionnaires occidentaux, nos coutumes ont évolué. Les hommes préfèrent s'endormir au chaud, dans les bras de leurs épouses. Maintenant, nous faisons comme les hommes blancs. Nous utilisons les femmes comme des couvertures. Les femmes. Les femmes blanches sont très belles et très propres. Je pense qu'elles se lavent tous les jours. À force d'être frottées, leur peau est tellement douce qu'elles glissent entre les doigts comme des anguilles. On dirait des poissons, car elles n'ont pas de poils aux jambes. On m'a raconté qu'elles se les épilent et je ne les ai jamais vues faire. Les filles sont très malignes et connaissent énormément d'astuces pour séduire les hommes. Elles prennent toujours soin de leur corps et portent de beaux habits qui leur donnent l'apparence d'oiseaux de paradis. Elles se coupent les cheveux, se liment les ongles, portent des boucles d'oreilles, se peignent les lèvres et les yeux. Les femmes blanches sont de véritables artistes car elles se dessinent sur le visage avec beaucoup de goût. On dirait des œuvres d'art. Bien que cela puisse paraître étonnant, les femmes blanches sentent très fort. Mais elles sentent très bon. Elles portent du parfum ou de l'huile qui dégage des odeurs de fleurs ou de fruits. Lorsqu'on s'approche d'elles, qu'on se laisse envelopper par ses effluves, cela donne faim. Personne n'a osé me le dire, mais je crois deviner que les filles se mettent même du parfum sur le sexe pour attirer les hommes et leur donner envie de faire l'amour. Les femmes les plus élégantes portent même des chaussures très étranges. Des chaussures brillantes qui claquent sur le sol lorsqu'elles marchent pour prévenir les hommes qu'il faut les admirer. Ces chaussures collines, escarpins, leur donnent l'air d'être beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Ça a l'air difficile de marcher avec ces souliers, mais j'ai l'impression qu'elles s'en moquent parce qu'elles veulent dépasser les hommes et pouvoir les commander. Contrairement à ce que je croyais, les femmes blanches sont très actives et travaillent dur. Elles sont autorisées à conduire des voitures, des bus et des camions. J'en ai même vu qui étaient pompiers ou policiers. Chez les Blancs, les femmes ont tellement de pouvoir qu'on dirait des hommes. D'ailleurs, en Europe, les vrais chefs sont des femmes. Elles commandent tout, décident de tout, et leur mari hoche simplement la tête pour acquiescer. C'est probablement une habitude qui doit remonter à l'époque de leurs ancêtres. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres pays d'Europe, mais en France, les Blancs aiment tellement les femmes qu'ils ont fait le symbole de leur pays. C'est une dame très belle, avec une grosse poitrine et un vilain bonnet sur la tête. Elle s'appelle Marianne. Il y a des sculptures d'elle dans toutes les villes du pays. C'est sûrement parce que les Français sont des obsédés sexuels que le symbole de leur pays est une femme. Anciens. Cela peut paraître étrange, mais les Blancs rassemblent leurs vieux dans une maison pour les anciens. Nous, nous vivons tous ensemble dans la même hutte, mais eux regroupent leurs aînés dans une case spéciale, très bien organisée. Il y a des femmes de ménage, des cuisiniers, des médecins et des infirmières pour s'occuper d'eux. Ils vérifient que tous les pensionnaires sont en bonne santé et donnent des médicaments à ceux qui en ont besoin. Là, les anciens sont au calme, bien installés, et chacun sa propre chambre. Je trouve vraiment ces maisons vraiment remarquables. Dans mon village, lorsque les vieux ont du mal à marcher, il faut les porter sur notre dos, leur donner à manger, couper leur bois, aller leur chercher de l'eau, les conduire aux toilettes. Lorsqu'ils deviennent aveugles ou qu'ils perdent la raison, il faut les surveiller et leur tenir la main. Ils ne peuvent plus rien faire, et c'est un travail très difficile. Les Blancs, eux, ont inventé beaucoup de machines pour faciliter la vie de leurs anciens. Ils ont construit des petites voitures afin qu'ils puissent se déplacer tout seuls. Pour ceux qui n'ont plus de dents, les infirmières écrasent les aliments et leur donnent la nourriture à boire pour qu'ils ne meurent pas de faim. Dans ma tribu, nous n'avons pas d'argent, alors nous devons nous occuper seuls de nos vieux. Le cimetière. Chez nous, les tombes sont d'une dimension à peine supérieure à celle d'un cercueil. Mais chez les hommes blancs, elles ressemblent à des maisons. Certaines tombes ont des portes, des fenêtres et des sculptures. J'ai même vu des sépultures qui ressemblaient à des châteaux tellement elles étaient spacieuses, belles et solides. Sur leurs tombes, les blancs mettent des fleurs et notent l'histoire de ceux qui sont morts. Ils plantent aussi des panneaux qui indiquent quand ils sont nés et quand ils sont décédés. Comme ça, les cousins, les enfants et les petits-enfants ne peuvent rien oublier de leurs ancêtres. J'aime beaucoup la façon dont les Blancs de prendre soin de leurs morts. Dans mon village, autrefois, nos ancêtres coupaient la tête des morts, peignaient leur crâne avec de l'argile et les plaçaient dans un endroit sacré, généralement une grotte. Aujourd'hui, nos coutumes ont changé. Avec l'influence des missionnaires, nous enterrons nos morts sous terre, comme en Europe, mais nous les plaçons où nous voulons, à côté de nos cases, dans un jardin ou sous un arbre. La crémation. En général, les hommes blancs choisissent d'être enterrés. Mais j'ai découvert que certains préfèrent qu'on les cuise sur un feu. Ensuite, ils demandent que leurs cendres soient conservées dans une petite boîte ou dispersées dans la nature. Mais à quoi pensent donc les blancs lorsqu'ils brûlent les morts ? Chez moi, lorsqu'un homme meurt, nous considérons que son esprit survit et qu'il vit autour de sa tombe ou non loin de sa maison. Lorsqu'on met son doigt sous une flamme, est-ce que cela fait mal ? Oui ! Alors pourquoi faire ça à ceux qui sont morts ? Je me demande si les Blancs savent qu'ils ont un esprit. L'amour et le sexe. L'amour. Les garçons font battre le cœur des filles. Et les filles font battre le cœur des garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'aime beaucoup les femmes. Et je crois que les hommes blancs aussi. Moi, si je rencontre une femme qui me plaît, je parle avec elle pendant des heures. Et j'oublie tout ce que j'ai à faire. Je néglige mon jardin, j'oblige mes amis à m'attendre. Mais après, lorsque je la quitte, je dois me dépêcher pour rattraper le temps perdu. Je cours pour aller chercher du bois, ramasser des patates douces, des tarots, faire ceci ou cela. Je crois que c'est la même chose pour les hommes blancs. Lorsqu'une femme les séduit, ils oublient tout et font des bêtises. La pudeur. Les blancs n'ont honte de rien. Je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la honte. Ce qui m'a le plus choquée lorsque je suis venue en Europe la première fois, c'est que les hommes et les femmes se mangent la bouche en public. Nous, les papous, nous nous cachons dans nos maisons ou dans la forêt parce que nous trouvons très grossier de faire cela devant tout le monde. Si un enfant surprend des adultes qui s'embrassent, il voudra faire la même chose. Et tous les enfants feront ça n'importe où, dans les jardins, à l'école ou ailleurs. Qu'est-ce que vous direz lorsque vos enfants feront l'amour au bord de la route? Vous les gondrerez, alors que vous faites pareil. J'ai également remarqué que devant les enfants ou les femmes, les hommes se permettent de dire des mots interdits sans aucune gêne. Un jour, en Belgique, un vieil homme m'a demandé si nous avions l'habitude de manger nos femmes. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans mon village, si un homme parle de cette manière en public, il devra tuer un cochon pour toute la communauté en dédommagement. En France, à Paris, j'ai également assisté à une représentation du Moulin Rouge. Pendant ce spectacle, les danseuses montrent leurs jambes et leurs poitrines. Dans mon village, il est interdit aux femmes de s'exhiber. Ainsi, mais les Français, eux, sont tellement fiers de leurs femmes qu'ils ont créé une danse spéciale pour que l'on puisse admirer leurs jambes. Le French Cancan. Lorsque j'ai assisté à cette représentation, j'ai été tellement surpris que mes yeux sont tombés de mes orbites et ont roulé sous la table. Je me suis demandé si le gouvernement des Français était au courant que des femmes dansent de cette façon. Parce que chez moi, en Papouasie, si des danseuses faisaient pareil, elles iraient tout droit en prison. En France, cela ne pose de problème à personne. Au contraire, elles ont beaucoup de succès. J'ai même découvert que l'on vient du monde entier pour regarder leurs jambes. Dans la salle, il y avait des Américains, des Chinois, des Indiens, des Égyptiens et des Japonais. Le gouvernement ne peut plus arrêter ce spectacle, car les jambes des Françaises sont trop célèbres. Le sexe. Les Blancs font beaucoup l'amour, et je crois que c'est à cause de cela qu'ils vieillissent vite et qu'ils ont toujours l'air fatigués. Les femmes se font très belles pour séduire les hommes. Cela les rend fous et ils ne pensent qu'à coucher avec elles. En plus, les femmes blanches prennent des médicaments pour ne pas avoir d'enfants et cela leur permet de faire l'amour très souvent. Nous, les Hulis, nous pensons que les femmes sont dangereuses et qu'il ne faut pas coucher avec elles trop régulièrement. Si je dors avec mon épouse, ma peau va se gâter et mes os se rompre. Le lendemain, mes parures ne seront pas belles, ma perruque paraîtra sale, mes plumes ne brilleront pas et la couleur de mes fleurs semblera fade. Quand j'étais en Europe, j'ai vu des films où des blancs font l'amour et j'ai découvert qu'ils le font de façon très curieuse. J'ai observé que les femmes peuvent mettre le sexe des hommes dans leur bouche. Dans mon village, si je demande à ma femme de faire ça et qu'elle le raconte en public, il faudra que je paye des cochons en compensation à sa famille. Le sexe n'est pas quelque chose à mettre dans la bouche. Chez nous, les hommes ne lèchent pas non plus le sexe des femmes. Si nous le faisions, nos ventres gonfleraient, nous tomberions malades et pourrions en mourir. J'ai également appris que les blancs font parfois l'amour à plusieurs. Chez nous, c'est également interdit. Nous ne faisons l'amour qu'à deux, un homme et une femme. Maintenant, dans mon village, certains ont vu des films de sexe réalisés par les Blancs et cela leur a donné des idées. À présent, peut-être que certains font pareil. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe. Je n'ai jamais couché avec une femme blanche. Alors, je ne peux pas en parler. Mais je serais curieux d'essayer. La polygamie. Les Blancs me demandent toujours si nous sommes polygames dans mon pays. C'est une véritable obsession pour eux. À chaque fois, je leur explique qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée coexistent 800 tribus différentes et que chaque tribu a ses propres usages. Certaines sont polygames, alors que d'autres ne le sont pas. Dans ma tribu, les Uli, nous avons droit de nous marier avec plusieurs femmes. Lorsque je raconte ça, j'ai l'impression que les Blancs sont envieux. Ils me regardent toujours avec un drôle de sourire, mais je ne comprends pas pourquoi. Chez moi, nous nous marions avec plusieurs femmes en même temps. Nos ancêtres faisaient ainsi et nous perpétuons nos traditions. Les hommes blancs ainsi se marient avec plusieurs épouses, mais pas en même temps, l'une après l'autre. Ils se marient avec une femme, puis ils divorcent, puis ils se marient avec une nouvelle femme, puis ils divorcent. Finalement, je trouve que cela revient au même. Ce qui me semble très frappant, c'est qu'à l'église, les époux unissent leurs mains, échangent des anneaux, jurent de prendre soin l'un de l'autre et de ne jamais se séparer. Pourtant, ils divorcent très souvent et les hommes changent régulièrement de femme. Je ne comprends pas pourquoi les Blancs ont des coutumes qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. L'apparence, les habits et les chaussures. Les hommes blancs attachent beaucoup d'importance à leur apparence. Ils ont tellement d'habits différents que je ne sais pas comment ils font pour se souvenir de leur nom. Ils portent des pantalons, des shorts, des salopettes, des imperméables, des caleçons, des slips, des maillots de bain, des strings, des culottes, des nuisettes, des pyjamas, des vestes, des doudounes, des smokings et tellement d'autres que je m'en souviens plus. Moi, comme mes ancêtres, je ne porte qu'un padjibou, une jupette de feuilles, pour me cacher les fesses, et un tambalé pour me cacher le sexe, un tablier en écorce tressée. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que je dorme ou que j'aille faire le jardin, que je me batte ou que je construise une case, je porte toujours la même tenue. Parfois, je me couvre les épaules d'un t-shirt lorsque j'en ai un, mais c'est rare. Ceux qui sont plus riches que moi possèdent des pantalons et des chemises, mais ils n'ont pas autant d'habits différents. Les Blancs, eux, ont des vêtements pour le jour, la nuit, le travail et le repos, pour se laver ou faire la cuisine, pour pêcher, nager, séduire les femmes, plaire aux hommes, plaire aux femmes, faire du sport. Peut-être ont-ils même des costumes spéciaux pour faire pipi ou faire l'amour. Bijoux, parures et piercing. Les femmes blanches possèdent de nombreuses parures qui les rendent très belles. Elles portent des bagues, des colliers, des bracelets. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les Blancs portent toutes sortes de bijoux, mais qu'ils me demandent continuellement à moi pourquoi j'ai un bâtonnet dans le nez. Généralement, je leur réponds « Et vous, pourquoi portez-vous des boucles d'oreilles ?» Comme si ma réaction était des plus idiotes. Les femmes m'expliquent toujours la même chose en haussant les épaules. « Eh bien, pour faire joli, tout simplement. » Alors je hausse les épaules à mon tour et je leur réplique de la même façon. « Eh bien moi, je me perce le nez pour faire joli, tout simplement. » Autrefois, mes ancêtres se perçaient le nez et je respecte cette tradition. Cela n'a pas de sens particulier, c'est simplement pour plaire aux femmes. Je trouve vraiment curieux que les Blancs me posent sans cesse cette question alors qu'eux se percent des endroits très étranges. Les arcades sourcilières, le nombril, les tétons et même la langue. Il faut être complètement fou pour transpercer cet endroit du corps. Nous, les Uli, nous pensons que la langue est la petite sœur du cœur. Elle sert à manger et à parler. Sans elle, les hommes ne seraient rien. C'est irresponsable d'y planter un piercing. Lorsque j'ai demandé pourquoi ils faisaient cela, les Blancs ont eu beaucoup de difficultés à me l'expliquer. J'ai posé cette question des dizaines de fois, mais personne ne m'a répondu. Moi, je porte un bâton dans le nez, car c'est une coutume de mes ancêtres. Mais les Blancs ne savent même pas pourquoi ils se percent des endroits surprenants. La peur de vieillir. J'ai découvert que les Blancs ont vraiment peur de vieillir. Alors ils ont inventé beaucoup de techniques pour avoir l'air jeune, le plus longtemps possible. Depuis que les Occidentaux sont venus dans mon pays, nous portons des lunettes lorsque nos yeux sont abîmés. Mais les blancs, eux, utilisent des préservatifs pour les yeux, pour faire croire qu'ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent aussi se rendre chez un docteur qui rend jeune pour les opérer de la vieillesse. Les femmes se font lisser la peau, reboucher les rides, retirer la graisse. Tout est possible, mais cela coûte très cher. Les blancs veulent rester jeunes éternellement. Pourtant, ils devraient savoir que c'est impossible. Moi, maintenant que j'ai découvert leur secret, je fais pareil. À chaque fois que je reviens en Europe, j'achète une dizaine de tubes de peinture pour teindre en noir les poils blancs de ma barbe. Comme ça, lorsque je rentre dans mon village, les femmes ont l'impression que j'ai rajeuni chez les blancs. Les animaux, l'agriculture, l'élevage et la chasse. Le chien, ancêtre de l'homme blanc. Parmi tous les animaux, il y en a un pour lequel les blancs ont particulièrement du respect. C'est le chien. Ils prennent soin de lui comme de leur fils aîné. Ces bêtes ont le droit de porter des habits lorsqu'il fait froid. Ils ont des couvertures et des matelas, on leur donne de bonnes choses à manger, ils vont même chez le coiffeur. En Europe, tout le monde se promène avec un chien, au bout d'une corde, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont même autorisés à faire leurs besoins n'importe où. Je trouve vraiment ça dégoûtant. C'est étonnant, car en général, les Occidentaux sont très propres. Ils font attention à ne pas jeter leurs détritus partout, et tout est tellement net que l'on pourrait dormir par terre. Mais il n'y a qu'une seule chose qui salisse les rues, les crottes de chiens. Peut-être que les Blancs pensent que c'est un honneur que leurs chiens défèquent partout dans la rue. Il serait nécessaire qu'un représentant du gouvernement rédige une loi qui oblige ceux qui possèdent des animaux à bien les surveiller, à nettoyer leurs excréments ou à les garder dans leur maison. Le plus incroyable, c'est que les hommes blancs prennent soin de leurs chiens, mais qu'ils laissent leurs véritables frères et sœurs, d'autres êtres humains, vivre dans la rue. Chez les Blancs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas de maison, pas d'argent, pas de voiture et qui dorment n'importe où. À eux, on ne donne pas d'habits ni de nourriture. Pourquoi traitent-ils les chiens beaucoup mieux que les êtres humains? Franchement, je l'ignore. Dans mon village, nous avons aussi des chiens, mais ils dorment dehors. Seuls, les hommes dorment dans des cases et les animaux ne sont pas mieux traités que les êtres humains. Je ne vois qu'une seule explication. Les Blancs doivent considérer que leurs ancêtres étaient des chiens. L'élevage. Les Blancs élèvent beaucoup d'animaux différents. Des vaches, des moutons, des poules, des chèvres. Leurs élevages sont aussi immenses que leurs jardins. En France, j'ai visité une ferme où les cochons étaient alignés comme dans un parking. On aurait dit des voitures. C'est vraiment une habitude de Blancs que de ranger les animaux. Mais c'est très pratique. De cette façon, les bêtes ne peuvent pas se battre entre elles et se blesser. Chez moi, les cochons s'appellent Holo, Lijou, Tienda ou Ken. Mais en Europe, ils n'ont pas de nom. Ils ont juste des numéros sur des boucles d'oreilles. Le plus incroyable, c'est qu'ils n'ont pas besoin de mâles pour faire des petits. Ils obtiennent des bébés sans papa. J'ai vu que ce sont les hommes eux-mêmes qui fabriquent les porcelets. Ils achètent du sperme de cochon dans de petits sacs plastiques et le mettent dans les femelles avec une seringue pour les féconder. Lorsque j'étais petit dans mon village, un vieux monsieur nommé Kungara m'a raconté que les Blancs qui n'ont pas de femmes font l'amour avec leurs cochons. Maintenant, je sais qu'il ne m'a pas menti. Dans mon village, nos cochons sont gris ou noirs comme nous, mais en Europe, ils ont la même couleur que les hommes blancs. Ils sont roses. Ce n'est pas étonnant si ce sont les Blancs qui font les enfants autrui. Il y a autre chose que je trouve très curieux. Chez moi, un homme qui possède une dizaine d'animaux est considéré comme un homme riche. Il est marié à plusieurs femmes et a beaucoup d'enfants. C'est un grand chef et quelqu'un de très important. Mais en France, j'ai rencontré un homme qui possède 7000 cochons. Il n'a qu'une seule femme et il dit qu'il est pauvre. Je ne comprends pas pourquoi les Blancs élèvent autant d'animaux s'ils en tirent aussi peu de profit. La pêche. En Europe, l'océan est le jardin des tribus qui habitent près de la mer. Ils y récoltent leur nourriture comme nous cultivons nos terres. Ce sont de véritables fermiers de la mer. Moi, je suis un homme des montagnes. Je ne suis pas un homme des marées ou des océans, alors je ne connais rien à la mer et à ses aliments. Mais en France, j'ai découvert que les tribus des Marseilles et des Bretagnes pêchent pour se nourrir. Je ne savais pas qu'il existait autant d'animaux dans l'eau. Des champignons noirs qui s'accrochent par grappes à des poteaux, des insectes avec des ciseaux qui coupent un doigt éventuellement, des serpents d'eau et beaucoup de poissons monstrueux, longs, gros, petits, allongés, bleus, verts. Je ne sais pas comment les Blancs s'y retrouvent avec toutes ces espèces et comment ils ont eu l'idée de manger des bestioles pareilles. Ce sont probablement leurs ancêtres qui leur ont appris quelles sont les variétés comestibles. Il y a de nombreux animaux mangeables dans la mer, mais moi, je trouve qu'ils ont tous le goût d'urine salée. Je n'en aime aucun, mais je devine que les femmes doivent beaucoup apprécier les pêcheurs. Elles savent que chaque jour, ils rapportent du poisson et qu'elles pourront en manger. Merci chers auditeurs, j'espère que ce petit voyage de Papou parmi nos terres vous aura plu. Bon samedi, bon week-end et à bientôt.